Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Larcher, président du Sénat. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour, bonjour Adrien. Dans la question en plus, Gérard Larcher, ce sera Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, qui vous interpellera. Et puis bien sûr, vous y êtes habitué, en fin d'émission, questions nettes, toutes vos questions, vos interpellations au président du Sénat. Et c'est Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra en fin d'émission pour les relayer. Alors Gérard Larcher, il y a presque un an pile, vous étiez l'invité de cette émission au plus fort de la crise des Gilets jaunes, au point que certains vous imaginaient devoir prendre l'intérim d'un président empêché par les événements, ce qui vous donne un petit sourire. C'est la Constitution d'ailleurs qui vous en confère, on le sait, la fonction. Finalement, la crise est passée, mais ces ferments ne sont-ils pas toujours vivaces? Pourraient-ils venir alimenter la contestation contre la réforme des retraites qui se prépare. Et sur cette réforme, d'ailleurs, à droite, dans votre camp, toujours convalescent, il y a autant d'avis de ligne que de riz de veau dans votre assiette. Gérard Larcher, je rappelle que c'est votre plat préféré. D'ailleurs, quelles sont vos propositions en la matière? Êtes-vous toujours pour une retraite à points, comme le veut le gouvernement? Vous, qui vous revendiquez d'appartenir à cet ancien monde attaché au territoire, bien loin, trop loin, selon vous, du nouveau monde d'Emmanuel Macron, dont vous dites qu'il est un homme seul, l'est-il vraiment, l'est-il toujours? Un homme avec lequel les relations d'ailleurs sont aujourd'hui assez fraîches, voire glaciales, vous nous le direz si c'est toujours le cas, tel un pouvoir face à un contre-pouvoir. C'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre, écrit avec notre consoeur Marion Mourgue. Homme de consensus peut-être, mais si besoin, sans état d'âme, vous nous direz lesquels dans cette émission. Mais tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet avec le mouvement de grève qui se prépare pour jeudi prochain. La question vous est posée par Adrien Gindre.
Et la France qui risque d'être bloquée donc ce 5 décembre avec cette journée de mobilisation. L'activité économique entravée, des usagers bloqués dans leurs déplacements. Il y a quelques jours, l'un de vos amis, qui est d'ailleurs ici présent aujourd'hui, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, proposait la réquisition des grévistes pour garantir un vrai service minimum. Est-ce que c'est une solution que vous aimeriez voir appliquer pour les prochains mouvements?
D'abord, parler de l'ambiance sociale. C'est presque une ambiance sociétale. Je crois que depuis maintenant 2 ans et demi, et on avait un rendez-vous il y a 1 an, vous le rappeliez, On a un problème de cap et de méthode. Problème de cap, parce qu'il n'y a pas de cohésion globale des réformes. Et qu'au fond, n'ayant pas de cap de cohésion globale, les Français n'y comprennent plus rien.
Et c'est ça qui
est anxiogène. Regardez l'hôpital. Regardez les agriculteurs. Regardez la question des retraites, mais jusqu'à une date récente, regardez les élus sur les territoires. Souvenez-vous, il y a 1 an, on balançait le maire. Cette année, on se raccroche à son maire. Et on a un problème de méthode, c'est la verticalité. La verticalité qui est le mode de gouvernance du président de la République, mais qui a fait disparaître les corps intermédiaires.
Mais sur les retraites,
qui les a gommés. On les appelle au secours cette semaine.
Sur les retraites au moins, Gérard Larcher, les Français étaient prévenus. Cette réforme des retraites, elle était dans le programme présidentiel.
Bien sûr, ils étaient prévenus. Et vous l'avez dit, le Sénat d'ailleurs, il y a quelques années, avait parlé de réforme systémique. Mais ils étaient prévenus de quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans l'opacité la plus totale. Qui comprend quelque chose? 1 an et demi, M. Delevoye négocie. Nous participons d'ailleurs à 2 colloques. Nous les organisons pour éclairer les Français. Ensuite, on nous explique non, ce ne sera pas l'âge pivot. Ce sera le nombre d'annuités. Puis, dans un avion, il y a quelques semaines, le président de la République parle de la clause grand-père, qui est naturellement l'attachement familial, chacun le sait. Puis, le ministre en charge de la réforme des retraites dit non, ça casserait la réforme.
Mais c'est pas une bonne chose de discuter et de réfléchir comme ça?
Et après, il faut y voir clair avec les Français. À force qu'on ne sache plus ce sur quoi la réforme va être construite, je pense qu'il faut clarifier les choses. Il nous faut un texte et engager un vrai dialogue.
Vous êtes presque en train de dire que vous comprenez ce mouvement de grève?
Mais quand vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, quand d'ailleurs les choses changent, j'allais dire chaque semaine, nous avons eu le droit cette semaine à la variable de la démographie par M. Delevoye, sujet qui n'avait pas encore été abordée. Venir, oui. Bah, il faut y voir clair. Oui. Il faut y voir clair aussi avec les Français. Mmh. Il faut y voir clair avec les partenaires sociaux, il faut y voir clair avec les parlementaires.
Est-ce que ce que vous nous dites en définition est assez fort, c'est-à-dire que le président de la République n'écoute pas les Français, sa manière de gouverner est verticale.
Et vous savez, il y a un baromètre.
Oui.
Il y a un peu plus d'un an, plus de 60% des Français adhéraient à sa réforme. Aujourd'hui, ils sont moins de 40%, c'est même descendu, paraît-il ce matin, plus bas que ça. Et la réalité, c'est qu'au fond, il y a trois réalités, Benjamin Sportouche. Vous savez, c'est assez simple. Soit vous augmentez les cotisations, elles sont déjà élevées. Soit vous baissez les pensions, second sujet. Soit vous jouez sur le paramètre de l'âge. Voilà les trois réalités qu'il faut dire les yeux dans les yeux aux Français. Et puis il y a naturellement le sujet demain de la valeur du point. Comment est-il fixé? La seule référence que nous avons, c'est notamment la valeur du point de la Girc-Arco, qui est une caisse complémentaire des travailleurs salariés. Voilà la réalité. Et c'est ça qu'il faut dire aux Français.
Sur la méthode, Gérard Larcher.
Nécessaire aussi d'un certain nombre de régimes qui sont l'héritage de notre histoire.
Mais alors, n'allons pas trop vite,
on va venir sur toutes ces questions dans un instant, mais juste qu'on reste un instant sur la méthode que vous évoquiez. Vous êtes, vous, un homme de dialogue, Gérard Larcher, c'est comme ça qu'on vous connaît, et vous avez l'air de dénoncer le fait qu'on ait discuté avec les syndicats. Jean-Paul Delevoye, par exemple, a dit qu'il allait à nouveau rencontrer dans ces prochains jours, d'ici au 5 décembre, tous les syndicats. Est-ce qu'il a raison ou
bien sûr, c'est même la seule voie possible. Mais avec quel texte? Avec quelle proposition? Les propositions du mois de juin? Les propositions du président de la République dans un avion de retour de la Réunion? Les propositions du Premier ministre? Il faut qu'on travaille.
Donc vous souhaitez que le gouvernement
un document
se dévoile, que le gouvernement fasse des annonces
sur
les prochains jours.
C'est la même chose dans sa relation avec le Parlement. Il y a au Sénat. Vous voyez, j'ai même transporté le Sénat dans votre studio.
C'est un peu petit quand même.
Il est présent. Il y a des sénateurs de toute sensibilité qui travaillent sur cette question de la réforme des retraites. On a un rapporteur qui s'appelle René-Paul Savary, on a un rapporteur général Jean-Marie Vollnerenberg, et tout ça, tout cet ensemble-là, nous voudrions savoir sur quoi.
Oui, mais vous voulez qu'il se dévoile d'ici jeudi. Est-ce que vous voulez, Gérard Larcher, très concrètement, que le gouvernement dise ses intentions clairement sur la réforme des retraites avant la grève annoncée de jeudi?
Je ne sais pas si c'est avant ou après la grève, mais en tous les cas, il faut qu'il nous le dise. Ouais. Qu'on sache enfin. Et je vous rappelle les trois paramètres, cotisation, montant des pensions, et puis la réalité aujourd'hui d'un système universel.
Oui.
C'est ça la réalité.
Parce que sinon, vous dites que c'est Emmanuel Macron qui sera à l'origine du blocage du pays. Est-ce que c'est ça que vous dites?
Je ne cherche pas. Vous savez, nous avons déjà eu des blocages sur des réformes des retraites. Il n'est aucun pays en Europe où la réforme des retraites ait fait l'objet d'un accord entre partenaires sociaux, mais a toujours fait l'objet d'un dialogue. Et le pays le plus remarquable sur ce sujet, ça a été les Pays-Bas.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue.
Écoutez, on a même exprimé aux partenaires sociaux, pour fâcher Laurent Berger, il en faut quand même, sur le sujet des retraites. Il faut avoir de la considération pour les partenaires sociaux, qu'ils soient d'ailleurs représentants des entreprises ou qu'ils soient représentants des salariés.
Mais j'en reviens au cœur de ce mouvement qui est une grève de la SNCF, de la RATP, pour protéger leurs régimes spéciaux. Est-ce qu'au moins là-dessus, vous êtes d'accord avec le gouvernement quand il dit qu'il faut en terminer avec ces régimes?
Je pense que au fond, il faut faire une proposition globale. Premier des sujets dans cette proposition globale, ce que j'appelle la piste raisonnable, parce que Jean-Paul Delevoye nous dit tous gagnants. C'est pas vrai. Ça peut être presque tous perdants, à l'exception de ceux qui ont des retraites inférieures à 1000 euros. C'est ça, la réalité. Et donc, je pense que pour cela, il faut tracer une piste. Le régime universel, puisque vous me posiez la question, il y a un instant de base, qui est le premier étage. Et puis, des régimes complémentaires, qui seraient le deuxième étage de cette réforme des retraites. Et je réponds à votre question. Bien sûr qu'il faut faire disparaître progressivement, je dis bien progressivement, les régimes spéciaux. Ils correspondent à une histoire. Il faut définir aussi des nouvelles pénibilités.
Progressivement, parce qu'il y a des nouvelles.
Oui, progressivement,
ça
d'ailleurs.
Ça veut dire clause du grand-père, pour le coup, pour vous? C'est-à-dire qu'il faut appliquer aux générations à venir?
C'est par la négociation, et secteur par secteur.
Mais vous reprochez au gouvernement de ne pas dire ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez?
Je viens de vous le dire. Régime universel.
Mais régime universel, ça veut dire quoi?
C'est un régime. Ça veut dire un régime par point jusqu'à un plafond de la sécurité sociale.
Bon, bah donc vous êtes d'accord sur le fond avec la volonté d'Emmanuel Macron.
Ça a déjà été voté par le Sénat, je vous rappelle, proposition Arthuis.
Bah oui, il y a mais c'est pas la position de toute la droite. C'est vrai qu'on n'y comprend pas.
Moi, je suis pas.
On comprend pas tout.
Je suis Gérard Larcher, président du Sénat, et vous m'interrogez à cet instant sur les positions de Gérard Larcher. Je vous dis régime universel de base, régime complémentaire obligatoire, ce qui va obliger l'exécutif à entrer dans une négociation avec les fonctionnaires. Parce que quand même, l'opération, c'est aussi main basse sur les régimes complémentaires, plus de 130 milliards d'euros, qui n'appartient pas aujourd'hui à l'État. Ça s'appelle de l'étatisation, et ça s'appelle main basse sur les régimes de base.
Alors, est-ce qu'il faut aller aussi plus loin ?
Sur les régimes complémentaires, pardonnez-moi.
Il faut aller plus loin. Bruno Retailleau a peut-être son avis, puisqu'il est aussi dans le public. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 65 ans ? Est-ce qu'il faut changer l'âge de départ à la retraite ? Éric Woerth le disait ici, il veut passer à 65 ans. Et vous, Gérard Larcher ?
Réponse. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. La question de l'âge est posée. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, l'entrée plus tardive dans la vie active, il faut regarder les Français en face et leur dire « c'est pas vrai ». On bougera, on ne restera pas à 62 ans. La réalité, c'est qu'on passera à 63 ans, puis à 64 ans. Même François Hollande l'avait admis dans la réforme Touraine. Arrêtons de ne pas dire la vérité aux Français. C'est anxiogène.
Donc le président ne dit pas la vérité aux Français.
Je dis qu'il a créé une opacité. J'espère que ce n'est pas volontaire. Moi, je l'appelle à la clarté.
Est-ce qu'il cherche à diviser les Français, comme le dit Philippe Martinez?
Ils sont déjà divisés. Je voudrais vous rappeler la première échange que j'ai eu avec le président de la République. C'était la veille de la cérémonie d'investiture. Il m'a dit « Comment vous trouvez la France ?» Je lui ai dit « Profondément divisée. » Comme au premier tour, elle s'est exprimée de l'élection présidentielle. Elle est toujours aussi divisée. J'ai même le sentiment, je ne cesse de le répéter, que cette France d'à côté, cette France qui est montée sur les ronds-points il y a un an, elle a le sentiment de ne pas être inclue dans cette communauté nationale.
Mais si je comprends bien, Gérard Larcher, vous comprenez en fait le mouvement de jeudi. Vous dites que les Français ont raison, ceux qui vont se mobiliser, de faire grève parce qu'on est dans le flou et qu'ils ont raison
je
de protester contre ce flou.
Je pense que la grève doit être l'aboutissement d'une absence de dialogue pour réintroduire le dialogue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un dialogue en vérité, en sincérité, à partir du moment où il y a eu opacité. Mon souhait, ce serait qu'avant jeudi, on se remette autour d'une table. Mais le droit de grève est un droit constitutionnel.
Vous,
c'est une manière aussi d'envoyer des alertes.
En l'État, vous soutenez ce mouvement?
Je ne suis pas en position de soutenir ou de ne pas soutenir. Je vous réponds clairement. Il y a des réalités dans ce mouvement qui n'est pas simplement la réalité du transport collectif. Et vous voyez bien, j'étais vendredi devant le barreau de Paris. Je peux vous dire que ce sujet-là n'est pas un sujet mineur pour les jeunes avocats aujourd'hui.
C'est là où on a du mal à comprendre. En même temps, vous dites, cette grève, en effet, c'est l'aboutissement d'un non-dialogue, mais en même temps, vous dites sur le fond de la réforme, est-ce que vous pouvez, s'il y a un système à points qui est entrepris par le gouvernement, est-ce que vous allez vous retrouver dans une opposition face au gouvernement?
Mais pas du tout. Non. D'abord, le rôle du contre-pouvoir, c'est pas de dire « je suis contre systématiquement », c'est de faire des propositions. Encore faut-il que nos propositions soient écoutées et entendues. C'est ça la démarche, et notamment la démarche du Sénat.
Et sur la méthode, vous pensez que le gouvernement peut encore, d'ici jeudi, annoncer un projet concret avec ce système dont vous appelez de vos voeux ?
Pas réellement à une espèce de miracle de réouverture d'un dialogue d'ici jeudi. Je pense que d'ici la fin du mois, il faut que le gouvernement éclaircisse. Nous sommes dans une opacité totale, et l'opacité entraîne l'anxiété. L'anxiété nous conduit à des attitudes, mais il n'y a pas que, je rappelle, la question des transports et des retraites. L'anxiété, c'est aussi celle de l'hôpital, qui a eu le sentiment, dans le premier projet changé il y a 15 jours,
de financement de l'hôpital,
qu'au fond, on ne prenait pas en cause pas simplement la crise des urgences, mais la question de la santé dans ce pays.
Et pour en revenir à ce mouvement, est-ce que vous croyez à une grève dure? Est-ce que, par exemple, vous avez annulé tous vos rendez-vous Non. Et si oui, dans quel délai?
Non, nous siégeons le 5 décembre et nous n'envisageons pas de ne pas siéger, parce que j'ai vu que dans une autre chambre, on ne siégeait pas. Mais nous, on siège, parce que notre rôle, c'est tout simplement d'assumer notre fonction de parlementaire, d'être attentif, d'interroger et de travailler.
Mais est-ce que vous imaginez que la France, vous anticipez un mouvement de blocage très fort, très dur, pendant plusieurs jours?
Je pense qu'il peut y avoir un mouvement de blocage. Et là, ça pose la question. Est-ce que la question du transport collectif n'est pas une question de continuité du
service? Et la question de la réquisition. Public,
sujet que nous avions abordé dès l'année 2007. Sujet qui est abordé au travers d'un certain nombre de propositions.
Un vrai service minimum.
Parce que c'est un droit... C'est un droit collectif. Est-ce un droit collectif? Encore faut-il le définir. Mais c'est aussi, à un moment où on parle beaucoup d'environnement, une vraie question, parce que, imaginons 15 jours sans transport collectif, je vais vous dire qu'en question d'aide de carbone, on pourra aussi donner l'addition.
Mais sur les réquisitions, Adrien Jean nous posait la question en début d'émission, est-ce que
proposition
vous pensez,
de Bruno Retailleau, président
est-ce que
de
vous pensez qu'on doit procéder à des réquisitions de bus privés?
Encore faudrait-il avoir le texte qui permette la réquisition, comme à l'hôpital ou comme pour les policiers. Moi, je pense que ces sujets, il ne faut pas les aborder dans la chaleur d'une crise. Il faut les aborder à froid et il faut les aborder dans un dialogue social préalable. Sinon, je ne m'appellerai pas Larcher et je n'aurais pas fait un texte début 2007 qui s'appelle la loi Larcher, paraît-il, et qui dit dialogue social préalable à chaque fois qu'on met... On met en avant un certain nombre de mesures nouvelles. Je rappelle que le droit de grève est constitutionnel et que je suis attaché au droit de grève.
Pardon Gérard Larcher, mais c'est un peu contradictoire. Non. Parce que vous dites, je suis très attaché au dialogue social. D'ailleurs, je l'ai organisé dans une loi qui porte mon nom. Et vous reprochez au gouvernement d'avoir passé trop de temps à discuter.
Non, je lui reproche de ne pas avoir discuté sur des bases claires, avec des propositions claires. Je lui reproche de ne pas avoir dit les choses en face. Je lui reproche, par exemple, de ne jamais avoir abordé la question paramétrique avec les syndicats.
Avec l'âge, par exemple.
Mais oui, c'est l'âge.
Et vous reprochez au gouvernement d'avoir parlé avec plusieurs voix. Vous avez rappelé les déclarations du président, du haut-commissaire, etc. Mais, pardon, Gérard Larcher, mais j'ai l'impression que la droite parle aussi avec beaucoup de voix différentes. On entendait à l'instant ce que vous disiez sur les réquisitions. Il y a quelques jours, François-Xavier Bellamy, eurodéputé des Républicains, lui disait que c'était aberrant de faire une grève préventive sur un texte qu'on ne connaît pas. Et vous, justement, vous avez l'air de comprendre qu'on fasse grève sur un texte qu'on ne connaît pas, puisque vous demandez au gouvernement des précisions.
Oui, parce qu'il y a une demande de vrai dialogue social. Et
mais là, il y a une contradiction entre votre famille.
Nous ne sommes pas au gouvernement, et la diversité existe dans les familles politiques de la droite et du centre. Moi, je m'exprime comme président du Sénat. Je m'exprime avec une vraie proposition. Une réforme universelle pour le régime de base, des régimes complémentaires obligatoires qu'il va falloir ouvrir à la fonction publique. Et enfin, regardez en face une réforme progressive des régimes spéciaux, dont certains n'ont plus lieu d'être. Mais vous savez, les réalités, ça me renvoie à Mirabeau. Mirabeau, quand on a fait le dessin des départements dans ce pays, on l'avait fait à l'américaine, avec des carrés. Et il a rappelé qu'il fallait prendre les histoires, qu'il fallait prendre les réflexes des hommes et des femmes, ce qu'ils portaient. Eh bien, il en est pareil des régimes spéciaux.
Et votre projet, il pourrait être proposé aux Français par référendum pour sortir de cette crise?
Écoutez, le risque référendaire, c'est au président de la République de le prendre. Parce que tant qu'on a... Il faut une question claire. Il faut un projet clair. Et à ce moment-là, les Français peuvent peut-être le partager. Ça n'est possible qu'après un débat au Parlement. Donc on a besoin... On a besoin de clarté, de lever l'opacité.
Mais vous dites pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait, on pourrait conclure ce débat par un référendum?
Mais parce que ça existe dans la Constitution. Mais je crois d'abord à la vertu du débat parlementaire après le temps du dialogue social.
Est-ce que quand même vous dites qu'il y a des divergences au sein de votre mouvement, la droite? Vous dites que chacun a ses opinions, mais en même temps, est-ce que ça n'affaiblit pas votre opposition? Est-ce que vous ne risquez pas d'en laisser l'exclusivité au Rassemblement National, par exemple?
Je les entends guère sur ce sujet, parce qu'ils
Ils sont pour la retraite à 60 ans,
à 60
et ils sont contre le projet fermement et définitivement.
Oui, et pour un déséquilibre et un déficit qui conduirait le pays dans l'abîme. Nous sommes des gens responsables. Nous pensons que nous ne pouvons pas avoir des perspectives de déficit qui nous conduisent jusqu'à 17 milliards de déficit. Là aussi, il ne faut pas mentir aux Français. Est-ce qu'on peut continuer dans ce pays à ne pas traiter de la réduction de la dépense publique? Est-ce qu'on peut continuer, au prétexte que les taux d'intérêt sont aujourd'hui négatifs, à emprunter? Alors ça, vis-à-vis des générations du futur, c'est une sacrée responsabilité.
Adrien Jeannin.
Cette semaine, dans le débat, a aussi été remarquée une déclaration de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites. On va le citer. Lui, il estime qu'il faudrait 50 millions de populations, entre guillemets, étrangères pour équilibrer la population active en Europe en 2050.
Je vous l'ai dit il y a un instant, cher Adrien Jeannin. C'est la nouvelle composante démographique. Je vous rappelle que notre pays, même si ça a baissé, est en solde positif démographique. C'est peut-être une question qu'il faut poser à l'Allemagne ou à d'autres pays.
Donc vous partagez
pas cette
critique, il s'applique
pas
à la France.
Pardonnez-moi. Si l'ambition pour équilibrer la réforme des retraites, c'est une immigration massive, alors il faut consulter les Français, il faut consulter le Parlement et le président de la République s'est engagé que sur les questions migratoires, on ait des débats au Parlement et des choix politiques qui soient faits. Alors si en plus on nous invente cette dimension démographique, après la clause du grand-père, après le nombre d'annuités versées, après l'âge pivot, on a vraiment besoin de clarté.
Donc c'est une invention.
Devant vous, on a besoin de clarté.
Il n'y a pas de problème pour équilibrer la population active de l'Europe à l'horizon 2050, de votre point de vue, contrairement à ce que dit Jean-Paul Delevoye.
En tous les cas, ce n'est pas un sujet qu'il faut faire subrepticement devant des étudiants à partir d'une étude qui elle-même peut faire l'objet d'un débat. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un problème démographique en Europe par rapport à d'autres pays. D'ailleurs, la question migratoire, elle nous renvoie à d'autres sujets, y compris des sujets pour lesquels nous avons 13 jeunes Français qui sont morts. C'est-à-dire, résoudre la question migratoire, c'est répondre à un certain nombre de défis économiques et sociaux dans les pays qui sont émetteurs de migration.
Mais vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de clarté. Est-ce que vous demandez au président de la République de prendre la parole, lui, en personne, pour venir éclairer les Français ?
Je crois que c'est le rôle du Premier ministre, d'abord. Mais comme c'est un élément du projet présidentiel que la réforme des retraites, et il y a besoin qu'il s'exprime autrement que dans un avion vis-à-vis des Français.
Il s'exprime dans un avion pour RTL. Mais est-ce qu'il doit venir, après la République, d'ici jeudi, peut-être, dire aux Français, voilà ce que je vous propose.
Il en a toute latitude, toute liberté. Je pense que, au fond, la grande question, c'est la perte de confiance des Françaises et des Français envers la parole publique. Je prendrai un exemple. Je suis certain que le gouvernement a dit la vérité au moment de l'incendie de Lubrizol à Rouen. Personne n'a cru le Premier ministre alors qu'il disait la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de défiance. Défiance d'ailleurs à l'égard des politiques, défiance aussi à l'égard des médias, à l'égard des élites. Et mais c'est sans doute le sujet majeur pour notre pays.
Mais vis-à-vis du président de la République, en particulier, est-ce qu'il y aura dans la rue une manifestation anti-Macron ? Est-ce que c'est en train de devenir cela aussi ?
Je ne le souhaite pas parce que pour moi, le président de la République, il est la clé de voûte de nos institutions. Et que cette clé de voûte des institutions, nous avons besoin, quelque part, je le redis, je l'ai dit il y a un an, qu'il soit le père de la nation. Il doit se rendre compte dans quel état le pays est aujourd'hui, qu'il a des doutes, que le pays majoritairement ne le croit plus.
Il faut qu'il renoue
dans une confiance. Renouer avec la confiance, c'est pas reculer. Tout simplement expliquer en vérité Benjamin Sportouche.
Quand le président de la République annonce des mesures pour l'hôpital, quand il retourne à Amiens voir les ex-salariés de Whirlpool, c'est ce travail-là qu'il fait, non ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Parce que ce travail, il est immense, parce qu'il a choisi la verticalité pendant tellement de temps qu'aujourd'hui, il faut renouer. Et la réponse, à mon avis, elle se situe dans une proximité. Dans une proximité, ça s'appelle demain une gestion différente du pays, ça s'appelle la décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire donner au territoire, aux élus du territoire, donner à l'État dans les territoires, ça s'appelle la déconcentration, la capacité de répondre aux préoccupations des Français. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, s'il y a un élu qui aujourd'hui tire son épingle du jeu de cette crise de confiance, c'est le maire.
Oui, mais sur un sujet comme la réforme des retraites, c'est forcément le pouvoir central qui s'en occupe.
Bien sûr, mais avec les partenaires sociaux.
Mais tout ça, vous lui dites.
Avec les partenaires sociaux, y compris dans un dialogue social en région. Tout ça a été gommé. Ça n'a pas commencé qu'en mai 2017, mais ça a été largement aggravé. Souvenez-vous de Jupiter et de l'Olympe.
Le surnom du
Moi, je suis plutôt un terrien proche des territoires.
Mais Gérard, est-ce que tout ça, vous lui dites au président ? Est-ce que vous avez des contacts, vous, directs avec lui ? Est-ce qu'il y a un dialogue entre le président du Sénat et le président de la République ?
Il y a un dialogue qui s'est légèrement refroidi au printemps dernier. Moi, je suis disponible pour tous les dialogues. J'ai un dialogue très approfondi avec le Premier ministre. Et ce dialogue très approfondi, je ne doute pas qu'il échange avec le président de la République sur ce dialogue très approfondi.
Votre relation avec le président s'est abîmée au moment de l'affaire Benalla.
Oui, et il y a aussi un sujet sur lequel nous ne sommes pas compris. La réforme constitutionnelle. Nous sommes favorables à la révision constitutionnelle. est favorable à la révision constitutionnelle à condition qu'elle permette à la démocratie de mieux fonctionner. Nous avons un sujet qui porte sur le nombre de parlementaires et c'est les conséquences d'ailleurs de la crise que nous avons connue fin 2018 et du grand débat, le besoin de proximité. Quand en mai de cette année, le président de la République, dans une conférence de presse, dit « j'ai bien senti le besoin de proximité », nous disons « oui ». Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 20 départements et collectivités à statut spécifique qui n'aient qu'un seul député et un seul sénateur.
Mais la majorité dit que c'est vous qui bloquez en fait les avancées.
Pas du tout. Nous sommes prêts à examiner. Mais pardonnez-moi, la révision constitutionnelle, c'est le fruit d'un débat parlementaire. Quand j'ai entendu qu'il fallait qu'on se mette d'accord au préalable, mais c'est faire fi du Parlement. Nous y sommes prêts. Si demain, le président de la République décide d'engager la révision constitutionnelle, nous y sommes prêts.
Et vous lui demandez...
Nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé et dans tous les groupes du Sénat.
Pour rester au Parlement, les sénateurs, comme les députés d'ailleurs, bénéficient d'un régime de retraite très favorable, qui est d'ailleurs abondé par l'État tous les ans. Est-ce que vous êtes d'accord pour le réformer ?
Tout d'abord, quelques vérités. Notre régime de retraite est un régime autonome qui existe depuis 1905. Dans lequel nous avons fait, comme les professions libérales, nous avons fait des réserves. Aujourd'hui, le budget du Sénat, 340 millions. La cotisation employeur, c'est 2,82% issu de ce budget. Nous ne demandons pas pour le Sénat un seul euro de plus à l'État que la part du budget du Sénat qui est consacrée aux retraites. Il faut arrêter de raconter n'importe
enfin,
quoi
vous versez
sur cette
près
réalité.
De 8 millions
Par
d'euros.
Contre, j'ai dit il y a deux ans, devant Mme Buzyn, devant M. Delevoye, que bien sûr nous prendrions en compte, bien qu'étant une assemblée autonome, la réforme des retraites comme nous l'avons pris en 2003.
Vous
comme nous l'avons fait en 2010.
Comme
nous l'avons fait après la réforme Touraine. Et les réserves, elles appartiennent à qui ? J'allais dire à la collectivité des sénateurs qui, depuis 1905, comme pour
Gérard
le Conseil
Larcher,
national des barreaux,
retraite d'un sénateur,
comme pour les professions libérales, c'est exactement
la retraite d'un sénateur, c'est 4400 euros bruts en moyenne. Est-ce que vous trouvez que pour une cotisation quand même qui est bien moindre en temps que les Français,
c'est
est-ce que vous ne dites pas que ce montant...
Exactement,
après bien moins
de
40
ans,
est-ce que vous ne dites pas quand même il faut qu'on fasse un effort substantiel.
Le taux de cotisation moyen des Français travailleurs, salariés, c'est 6,90. Chez nous, c'est plus de 15%. Voilà la réalité du taux de cotisation. Parce que le mandat est plus court. Parce que le mandat est plus court que la moyenne. Net, c'est 3850 euros. Mais que la retraite, par exemple, d'un ingénieur en chef de la RATP, c'est 6000 euros. Arrêtons d'opposer les gens les uns aux autres.
C'est l'heure de la
question. Mais si nous avons une réforme, nous l'appliquerons comme nous le sommes appliqués.
C'est dit. C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Cher Gérard Larcher, au titre du vétérinaire que vous avez été, vous avez vocation à faire reculer la souffrance animale. Au titre de président du Sénat, vous tracez l'avenir de la société. À ces deux titres, pouvez-vous faire en sorte que l'on cesse le feu sur les espèces chassables qui sont à l'agonie et qui figurent encore sur la liste rouge de l'UICN? Il y en a une vingtaine sur les 64 espèces chassables en France.
Vétérinaire et chasseur, Gérard Larcher.
Bien sûr. D'abord, salut Alain Bougrain-Dubourg. Et je dois dire que ce sujet, il fait partie des préoccupations du Sénat. Nous l'avons tellement eu que dans le texte biodiversité, nous avons soutenu la gestion adaptative des espèces. C'est-à-dire de se dire que les espèces doivent être gérées en fonction de leur vitalité. Mais le grand sujet... Ça n'est pas le sujet du prélèvement par la chasse. C'est la transformation profonde des habitats. Quand vous parlez de la Bartavel, chère Apagnol, dans la gloire de mon père, la réalité de la Bartavel, c'est la transformation profonde du milieu intermédiaire de la montagne avec la disparition de l'agriculture. Quand vous parlez de l'alouette des champs, ou quand vous parlez de la tourterelle des bois, c'est, et d'ailleurs les chasseurs ont diminué des 4/5 leur prélèvement. Le vrai sujet, je voudrais qu'on se mette d'accord, agriculteurs, sylviculteurs, protecteurs, on a un sujet en commun, c'est le maintien de la biodiversité. C'est un sujet sur lequel le Sénat travaille. Je respecte ceux qui n'aiment pas la chasse, je peux même les comprendre, Mais je le dis à Alain Bougrat-Dubourg, arrêtons de nous invectiver, retrouvons-nous.
Merci Gérard Chez, c'est dans quelques minutes la suite de votre grand jury. On parlera notamment du Mali. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président du Sénat, Gérard Larcher. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Jean de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
On vous a entendu très critique, Gérard Larcher, contre le président de la République dans la première partie de cette émission. Est-ce qu'au moins vous le créditez de réussite comme une baisse du chômage ou des réformes qui ont été effectivement entreprises?
Oui, nous les avons même votées, la réforme sur le travail. Nous les avons votées parce que nous pensons qu'il faut donner à ce pays plus de souplesse, plus de liberté pour développer son économie, pour développer sa compétitivité. Et sur tous ces sujets-là, nous serons au rendez-vous. Ma seule critique, c'est qu'au fond, on n'a rien réduit dans la dépense publique de ce pays. Nous restons un pays extrêmement marqué par une dépense publique, que nous n'avons pas retrouvé cette souplesse, cette compétitivité. Voilà pourquoi, sur les territoires, dans les conventions que j'ai pu conduire avec des élus de la droite et du centre, avec la société civile, cette question de la compétitivité, de la réindustrialisation du pays, fait
partie
des engagements.
Oui, mais globalement, la France va mieux alors, Gérard Larcher?
Est-ce que la France d'accord pour va le dire mieux sur un certain nombre de chiffres du chômage, même si on doit les prendre avec prudence. Vous savez bien que le chômage de longue durée, que les questions de formation restent pendantes.
Et est-ce que le président, quand il dit qu'il a face à lui un pays négatif, déprimé, est-ce que vous pouvez, vous qui avez été aux responsabilités, dire bah oui, c'est vrai qu'on peut se retrouver face à une France souvent
défaitiste? Il a surtout devant lui un pays divisé et qui a perdu confiance.
En lui.
Pas qu'en lui, qui a perdu confiance collectivement, ce qui amène d'ailleurs parfois les Français à s'opposer les uns aux autres. Et c'est ce qui me préoccupe. Voilà pourquoi, le décrivant à François Hollande, puis ensuite au président Macron, je dois dire que pour le Sénat qui représente les territoires, la première préoccupation, c'est la cohésion. Je ne suis pas dans une opposition, ni systématique, ni anti-pouvoir. À chaque fois que les choses nous paraissent positives, nous les soutenons. Nous avons, je rappelle quand même, voté avec l'Assemblée nationale 70% des textes au cours de l'année qui s'est achevée au mois de juillet.
Donc, ça veut dire qu'Emmanuel Macron,
à chaque fois, nous pensons que ce qui est bon, ce que le Premier ministre aussi propose et qui est bon, nous le soutenons.
Donc vous êtes d'accord avec lui à 70%?
Ouais. C'est pas comme ça que ça se mesure.
Bah, si.
Mais c'est un indice. Le taux de chômage, c'est un indice d'une capacité du Sénat à chaque fois. Vous savez, j'ai cette formule. Au Sénat, on dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. C'est une attitude que nous avons en partage qui nous permet d'ailleurs d'avoir une majorité sénatoriale diverse et une opposition au Sénat qui est dans le dialogue permanent avec chacune et chacun.
Mais en même temps, Gérard Larcher, 70% de mesures adoptées. Quand certains s'interrogent sur l'orientation politique d'Emmanuel Macron, eh bien, il semble que ce que vous nous décrivez, c'est un homme de droite qui répond aux aspirations de la droite.
Mais une partie de la gauche au Sénat a voté un certain nombre de mesures aussi. Emmanuel Macron, au fond, là aussi, il faut qu'il chasse une forme d'opacité, qu'on sache où il se situe réellement.
Alors, Adrien Gindre, pour Emmanuel Macron, qui est aussi chef des armées et qui doit se célébrer demain une cérémonie aux Invalides.
Cérémonie en hommage aux 13 militaires tués au Mali. D'ailleurs, l'état-major indique que les corps des militaires viennent d'arriver en France. Ça a été malgré tout un sujet également politique ces derniers jours. Le président lui-même s'est exprimé pour dire qu'il était prêt à revoir toutes les options stratégiques sur place, au Sahel. Et Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, lui a dit très clairement qu'il fallait ramener nos soldats à la maison. Est-ce qu'il faut, oui ou non, ramener les soldats français en France, Gérard Larcher?
D'abord, nous sommes dans un temps de deuil, d'unité de la nation, autour de ces 13 soldats, autour de nos forces armées. Et pour nous, au Sénat, ça a une dimension personnelle particulière, puisque un jeune lieutenant n'est autre que le fils d'un de nos collègues, Jean-Marie Bockel. Et donc, demain, c'est vraiment une République qui se retrouve, qui partage autour de ces jeunes soldats, autour de son armée. Et c'est vraiment l'attitude de, j'en suis certain, qu'auront les 348 sénateurs demain.
Donc il ne faut pas parler politique pour le moment.
Il faut se poser la question, pourquoi nous sommes là-bas? Et je rappelle janvier 2013, quand François Hollande prend la décision d'engager nos forces armées, c'est pour empêcher Mopti et Bamako de tomber entre les mains des djihadistes. Et qu'aurait-on dit d'un État comme le Mali, qui serait le premier État d'Afrique aux mains des djihadistes? Notre armée, sur l'ordre du chef des armées, qui est le président de la République, a permis d'éviter ce risque
et
majeur.
Et j'ai raison.
Le paradoxe. Nous sommes là-bas aussi les vigies de l'Europe. Et nous sommes engagés là-bas. Alors la question aujourd'hui, si je reprends les déclarations de l'époque, c'est pourquoi au début de la 7e année de présence, nous sommes toujours là-bas. La réalité aussi, c'est que un certain nombre d'États n'ont pas recouvré leur force, leur unité. Certains sont même en état de plus grande faiblesse qu'en 2013. C'est le cas du Mali. C'est le cas du Burkina Faso.
Et pourtant, il y a un sentiment anti-français très fort qui monte au Mali.
On pourra le dire dans un instant. Et il nous faut donc aujourd'hui préparer un certain nombre d'alternatives. D'abord, nous sommes les vigies de l'Europe. Que nos amis européens qui nous soutiennent de manière logistique aillent plus loin. Et je comprends et partage ce qu'a dit le président de la République. Nous le disions depuis longtemps d'ailleurs. Au Sénat et notamment dans notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Et quand je parle de combattants, parce que c'est les Français qui meurent. Se poser la question du mandat de l'ONU et des forces de l'ONU, dont je rappelle qu'aujourd'hui, ces hommes ont un mandat extrêmement limité, que la majorité de leur budget est consacrée à leur propre protection.
Mais on a essayé de le faire, Gérard Larcher.
Non, il va falloir... Mais sur les Européens, j'espère que nous aurons des réponses. Sur l'ONU, le sujet est posé. Et puis, c'est la montée, ou non, en puissance de ce qu'on appelle le G5 Sahel. Mauritanie, Niger, Tchad, Mali, Burkina Faso, pour que les Africains puissent prendre leur destin en main. Mais vous savez, la réponse ne sera pas que militaire. S'il n'y a pas de stabilisation politique, de développement économique et social, nous en parlions tout à l'heure sur la question migratoire, au travers du débat autour de la démographie, eh bien, l'Afrique continuera à être déstabilisée. Nous sommes inquiets pour le Burkina Faso, par exemple.
Mais qu'une partie de la population malienne soit en rejette cette présence française, est-ce que ça vous paraît choquant ?
Bien sûr que c'est choquant quand on pense à la mort de nos soldats et à l'engagement de notre armée. Mais au fond, une armée qui n'est pas celle du pays, qui reste longtemps, c'est un premier sujet. Puis le second des sujets, je l'ai partagé avec quelqu'un qui s'occupe d'humanitaire dans le monde entier il y a très peu de temps. Quand un État est défaillant, quand il n'y a plus de services publics, quand un État n'est pas en capacité de gérer les conflits, pas simplement religieux, mais interethniques, à qui des villageois font-ils confiance, si ce n'est à la milice locale? Elle peut être islamiste. Quand il n'y a plus de service public, c'est la mosquée qui devient le lieu du service public.
Là, vous décrivez le Mali aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut faire grief à des gens qui n'ont rien, d'essayer d'avoir un peu? Et donc, la réponse, elle est dans la stabilisation politique. Elle est dans le développement économique et social, tout autant que dans la partie militaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe au nord du Burkina Faso et dans une partie du Mali.
Gérard Larcher, avant d'en venir à Londres, et l'attentat qui a eu lieu avant-hier à Londres, il y a une polémique qui est en train de monter sur des caricatures. Dans Charlie Hebdo, le chef d'état-major de l'armée de terre, Thierry Burkhard, a fait part de sa profonde indignation et de son incompréhension après la publication sur le site du journal satirique de caricatures au sujet de la mort des 13 soldats français au Mali. Qu'est-ce qui prévaut pour vous? Est-ce que c'est la liberté d'expression ou faut-il une forme de retenue dans ces circonstances?
Je ne vais pas faire de classement, moi je partage la réaction du chef d'état-major de l'armée de terre. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien qu'il ait invité demain aux Invalides celles et ceux. Mais en même temps, la liberté, je l'écrivais, vous savez, la veille du jour où Cabu a été assassiné, je devais le rencontrer et il devait m'interviewer. Peut-on rire de tout? Et je continue à penser que la liberté d'expression est une réalité, mais j'appelle à ceux qui ont toute latitude dans la liberté d'expression de penser à chaque fois à ce que ça peut représenter pour des familles, par exemple, dans des moments de deuil. On peut être libre et en même temps assumer une part de responsabilité collective dans un pays tellement
divisé.
Mais ils
ne sont pas responsables quand ils font ce genre de dessin, Gérard Larcher.
Pardon ?
Ils manquent de responsabilité ?
J'appelle à une plus grande responsabilité.
Bon, Adrien Jeanne.
À Londres, deux personnes ont été tuées par un homme qui avait été condamné dans une affaire de terrorisme et qui avait été remis en liberté conditionnelle. Depuis, ça pose une question. Comment traiter, bien évidemment, ceux qui sont condamnés, emprisonnés, puis remis en liberté? La France va également être concernée dans les années à venir. Est-ce que vous vous dites qu'il faut trouver un moyen d'éloigner durablement ces personnes de la société? Et si oui, comment?
Depuis 2014, nous avons mis en place dans ce pays des unités, des groupes pour prévenir la radicalité. Dans une circulaire récente, le ministre de l'Intérieur a appelé l'attention des préfets. Le président de la République a appelé notamment les élus à une vigilance particulière, comme les citoyens.
Suffit tout ça ?
C'est efficace ? Non,
ça a une part d'efficacité. Cette part d'efficacité, on voit bien qu'on ne peut pas prévenir sur tous les théâtres. Vous voyez bien ce qui s'est passé à Londres. Un des sujets majeurs que nous avons, c'est le sujet de la prison et de la radicalisation en prison. Ce qui a été jusque-là mis en place a échoué en matière de radicalité. Et nous avons eu d'ailleurs un rapport du Sénat sur ce sujet. Et nous sommes là face à un vrai défi de lutte contre la radicalité. Nous avons aussi à créer ce lien de confiance plus grand entre les élus qui sont souvent les premiers observateurs de signes de radicalisation sur le terrain d'enfermement. Et nous avons sur le sujet, pardonnez-moi, l'application sans faiblesse de la loi de 1905.
Mais vous n'êtes pas pour l'emprisonnement à vie, par exemple, de personnes qui ont été condamnées pour actes de terrorisme et qui arriveraient au bout de leur peine.
Une perpétuité réelle.
Nous pouvons imaginer cela, ça appartient au législateur de le faire.
Vous le souhaitez, Gérard Larcher.
Je pense qu'il faudra examiner, à l'issue d'un travail sur la radicalisation, comment on prévient de la meilleure façon. Mais nous avons déjà un sujet qui n'a pas besoin d'un texte, c'est comment on traite de la radicalité en prison, de la sortie de prison.
Mais certains disent que ce serait le retour du bagne, vous savez ce qu'on dit. On dit à ce moment-là, on doit toujours dans notre société...
Mais arrêtons de nous envoyer des symboles d'un autre âge. La radicalisation est aujourd'hui un phénomène qui peut mettre en péril nos démocraties, qui peut d'ailleurs nous amener tellement à être en péril que nous en oublions l'état de droit. Il nous faut donc conjuguer la réalité d'un état de droit, des libertés, avec une lutte sans merci contre la radicalisation. Ça veut dire le courage de décision. Le courage de décision, notamment en traitant ce qui est le détournement du fait religieux et qui conduit à la radicalité.
C'est l'heure de Question Express.
Le Grand Jury, Question Express.
Gérard Larcher, pour ou contre une loi contre les listes communautaires aux prochaines municipales?
D'abord, il faudrait avoir le temps de le faire.
C'est
avant,
pour ou contre, Gérard
La question
Larcher.
Qui est posée, c'est pas oui ou non.
Si.
Non, c'est trop complexe, parce que ceci...
Bruno Retailleau est ici présent à nouveau,
oui,
a déposé
la question
une proposition de loi.
Est-ce oui, que la question est posée. Cette réalité, elle est posée, pas simplement par Bruno Retailleau, par bien d'autres. Pour lui apporter une réponse, encore faut-il définir ce qu'est le communautarisme au travers d'une liste communautaire, et il faut s'assurer d'avoir des moyens de réponse qui sont des moyens conformes à la Constitution. Sinon, il faudra faire bouger la Constitution, et Bruno Retailleau a souligné un point qui doit appeler à notre vigilance collective.
Donc changer la Constitution éventuellement.
Mais nous l'avions prévu d'ailleurs.
D'accord.
Je rappelle que si le gouvernement a le courage d'introduire la modification constitutionnelle, notre groupe de travail a prévu, à l'article 1er et à l'article 4 de la Constitution.
Et quand François Baroin dit que mercredi qu'il ne faut pas encombrer, je le cite, les municipales avec le sujet des listes communautaristes, vous n'êtes pas d'accord avec lui?
Je pense que ça appelle à ce que les partis politiques qui sont attachés aux valeurs de l'article 1er de la Constitution, nous sommes une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, soit extrêmement attentif. C'est pas une question d'encombrement, c'est une question de principe.
Pour ou contre, Gérard Larcher, le retour du cumul des mandats?
Pour.
Pour ou contre l'interdiction de se représenter 4 fois à une municipale comme Martine Aubry à Lille?
Je suis contre, parce que je pense que si un élu a la confiance des citoyens, moi je ne connais qu'un seul juge de paix, au fond, c'est le vote des citoyens dans une démocratie. Je ne vois pas pourquoi on se poserait des questions à dire, mais attention, liberté par rapport à quelqu'un qui serait fiché. pour la liberté de se présenter et d'interdire, par exemple, à un Gérard Larcher, qui a été 5 fois élu maire, de se représenter une 6e fois. Je vous rassure, ce ne sera pas le cas.
Pour ou contre la candidature de Bruno Retailleau à la présidentielle de 2022?
Eh bien, écoutez, c'est un homme de talent et de qualité, c'est à lui de décider.
Donc s'il va à la primaire, vous le soutiendrez?
Il faut d'abord qu'il y ait une primaire. J'ai cru qu'il y avait encore débat sur la primaire.
Vous, vous êtes pour une primaire?
Oui.
Et il n'y a pas dans votre camp, eh bien, pour l'instant, de consensus là-dessus?
Bien sûr, mais c'est l'intérêt. La famille des Républicains, vous savez, elle va beaucoup mieux. Elle prépare un projet. Et on peut débattre. Mais je pense que le débat ne doit pas s'enfermer simplement sur les Républicains. Nous avons des amis centristes, nous avons des familles politiques qui sont proches de nous. Et méfions-nous de l'entre-soi. C'est la pire des choses pour une formation politique comme pour une assemblée.
Dernier pour ou contre Gérard Larcher, pour ou contre un troisième mandat de Gérard Larcher comme président du Sénat?
Si mes collègues me font confiance, il n'est pas impossible que ça soit plutôt un 4e mandat. Parce que je vous rappelle que j'ai été élu entre 2008 et 2011, que j'ai connu l'alternance qui m'a permis de vérifier que le Sénat était une vraie assemblée capable de vivre l'alternance.
Donc vous souhaitez rester à la tête du Sénat
si
en septembre
prochain? Si mes collègues me font confiance.
Guillaume Roquette.
Un certain nombre d'élus républicains, en particulier dans le sud de la France, à Sète, à Béziers, souhaitent se rapprocher du Rassemblement national pour les municipales. Est-ce que ces gens doivent être exclus
c'est
de
fait.
Votre parti?
C'est fait. Et j'ai participé à la décision. Quand on se présente à Sète et qu'on est président d'une fédération, nous avons clairement choisi François Comaine.
Et on exclut de la même façon ceux qui voudraient
et
faire la même démarche.
Et quand on veut se rapprocher de Monsieur Ménard, un de vos anciens confrères, eh bien, on n'est plus aux Républicains. Au moins, les choses sont claires.
Vos électeurs ne comprennent pas forcément.
Le sujet, c'est qu'on a quelques valeurs, quelques principes qui ne sont pas poreux avec ce que conduit le Rassemblement national. Et moi, ça me suffit.
Le risque, c'est que le parti se recroqueville à terme. Si certains partent à la République en marche, d'autres au Rassemblement national, qu'est-ce qui va rester à la République?
Eh bien, la nécessité d'un espace. Car la démocratie qui se réduirait au choix entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, ça, ce serait une démocratie racornie, avec tous les risques. Voilà pourquoi je ne cesse de dire qu'il faut rassembler les familles de la droite républicaine, du centre, de les rassembler pour porter un projet, pour retrouver la confiance des Français et proposer une alternative aux Français qui décideront.
Mais Gérard Larcher, vous qui allez sillonner la France, vous les entendez, vos militants qui vous disent, eh bien, à un moment donné, il faut aussi qu'on aille vers ceux qui peuvent être de potentiels alliés pour reconquérir le pouvoir, c'est-à-dire le Rassemblement national. Ils nous le disent, ils vous le disent aussi. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Ils ont choisi Christian Jacob, qui a été très clair sur ce sujet pour les militants LR.
Alors, il n'y a pas que les militants, et les sympathisants.
Ce sont les militants, ça.
Les sympathisants, ils sont sympathisants autour de valeurs. Ils ne sont pas sympathisants autour d'alliances. Que ce soit clair dans ma bouche.
Est-ce que vous êtes...
Et très largement, aujourd'hui, à LR, les décisions ont été prises. Il n'y a pas de porosité avec le Rassemblement national. Je dirais qu'aujourd'hui, faire ce procès-là, je vous renvoie à quelques territoires où les choses sont très
claires. Est-ce
qu'on traite de la même façon ceux qui veulent se rapprocher d'En Marche, en les excluant du parti?
Non, ce n'est pas la même chose, parce qu'on parle municipal. La confiance est au maire sortant. J'ai été 5 fois tête de liste. Vous composez votre liste comme vous l'entendez. Et si je vous donnais les compositions de ma liste à Rambouillet dans l'histoire, vous souririez. Premier adjoint radical de gauche et la deuxième adjointe, Christine Boutin. Vous voyez la diversité.
Donc vous assumez
qu'on est d'accord sur un projet local.
Vous assumez le deux poids, deux mesures.
Mais ce n'est pas deux poids, deux mesures.
Quand on se rapproche du Rassemblement national... Et quand
j'assume de ce qu'est une municipale. Et j'assume d'être clair dans mes valeurs, qui est le rejet total de ce que porte le Rassemblement national.
Est-ce que vous... Marine Le Pen, justement, est-ce qu'il est possible qu'elle soit élue en 2022?
Rien n'est impossible. Ma grande crainte, un jour... C'est qu'au soir du deuxième tour, la photo soit inversée.
C'est-à-dire?
Puisque moi, j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour. J'ai même appelé à voter. Mais méfions-nous un jour de l'inversion. Méfions-nous de ce qui est en train, en souterrain, de se passer en Italie, et qu'un jour, nous nous retrouvions avec une photo qu'à aucun prix, je ne veux voir s'inscrire dans ma lucarne.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Gérard Larcher. Il y a eu beaucoup de réactions en direct concernant vos propos sur la réforme des retraites, et notamment celle de Philippe, qui est lui-même retraité. Et il a réagi avec le hashtag Le Grand Jury, et pour lui, il trouve que c'est assez amusant de vous entendre faire des propositions maintenant que vous êtes dans l'opposition, alors que vous n'avez rien fait quand vous étiez au pouvoir.
Je lui réponds inexact. Et Vous me donnerez ses coordonnées, je enverrai le débat que nous avons eu au Sénat et qui nous a amené à proposer une réforme systémique par point.
Oui, mais c'est ce qu'il dit. Pourquoi ne pas avoir fait cette réforme que vous soutenez
aujourd'hui ? Parce qu'elle n'a pas été adoptée à ce moment-là.
Bon, c'est clair.
Il a sa réponse et je tiens à sa disposition. Il m'écrit l'ensemble des débats.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, cette semaine, il était difficile de passer à côté des publicités pour le Black Friday, ces réductions massives de fin d'année. Il y a eu beaucoup de réactions, gaspillage, hyperconsommation. Certains internautes ont été vraiment très sévères sur le sujet. Et Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, parle, elle, de frénésie de consommation. Et elle estime que le Black Friday nuit au petit commerce. Ça a soulevé un tollé. Est-ce que la ministre était dans son rôle avec ses propos ?
Écoutez, la ministre était-elle dans son rôle ? D'abord, le premier des sujets qui est posé par ce dossier de Black Friday, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait autant de mobilisation pour sauver les centres-bourgs, les centres-villes et les petits centres-villes qui voient leur activité commerciale disparaître. À part les élus locaux, je ne vois pas grand monde. Et la seconde des choses,
oui,
mais attendez.
Ils sont menacés par les entrepôts Amazon, par exemple, très concrètement.
Entre autres,
est-ce que vous êtes contre l'installation des entrepôts Amazon ?
On est dans un régime de liberté. On est dans un régime de liberté. On sait bien ce que a donné la régulation. Moi, je ne suis pas client d'Amazon, donc j'en parle très librement. Mais est-ce qu'on peut tout interdire dans ce pays ? Est-ce qu'on peut continuer aussi à se dire que ce n'est pas d'abord la responsabilité des 30 millions de consommateurs français ?
Mais c'est un acte militant de ne pas aller chez Amazon.
Il faut aussi mettre les citoyens.
C'est un acte militant de votre part de ne pas aller chez Amazon ?
Non, ce n'est pas un geste militant. C'est que je préfère aller dans mon centre-ville. C'est la réalité. Parce que je sais que le jour où mon centre-ville sera mort, quelque part, une partie de la cohésion aura disparu.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, tout autre sujet. François Bayrou pourrait être mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants eurodéputés du Modem. En interview cette semaine, dans une interview, l'ancien ministre a déclaré « Tout le monde est mis en examen, ou à peu près, dans la vie politique française ». Alors vous imaginez, des internautes ont été très interloqués par sa phrase. Il y a eu beaucoup de reproches qui lui ont été faits. Est-ce que c'est un propos déplacé, d'après vous ?
Je ne fais aucun commentaire sur des affaires judiciaires en cours.
Mais sur sa phrase à lui spécifiquement.
Je ne fais aucun commentaire.
Mais c'est pas
sur
une
des
affaire
judiciaire en cours.
C'est un avis qu'il donne.
Tout le monde est mis en examen.
Mais
la classe
vous avez ma réponse, elle est définitive.
Bon, donc on ne saura pas ce que vous pensez de cette sortie de François Bayrou. Autre question, dernière question sur la redevance audiovisuelle.
Oui, alors le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé que la redevance audiovisuelle n'allait pas disparaître. Est-ce que c'est une bonne décision d'après vous ? Est-ce qu'il faut l'étendre aux tablettes et aux ordinateurs ?
Moi, je suis pour maintenir un audiovisuel public à côté de l'audiovisuel privé. Je pense que c'est important pour notre pays, cet équilibre. C'est aussi la France telle qu'elle est. Et je suis un défenseur de cet équilibre entre audiovisuel public et audiovisuel privé.
Dernière question, vous serez candidat à Rambouillet, Gérard Larcher, ou pas ?
Non, je ne suis pas candidat à Rambouillet. J'ai transmis en 2014... C'est une jeune femme, Véronique Matillon, qui va être candidate à Rambouillet. Je lui souhaite le meilleur.
Merci Gérard Larcher, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.